Clara Lecoq-Réal, je lui donne son nom. Voici le journal, Clara.
Merci beaucoup Guillaume et bonjour à vous, bonjour à tous. Pas d'amiante dans nos écoles, voici le mot d'ordre de la manifestation prévue cet après-midi à Paris, quand des enseignants un peu partout en France sont de plus en plus nombreux à utiliser leur droit de retrait. Nous avons rencontré élèves et professeurs dans un lycée du Val-de-Marne. Nous irons ensuite en Allemagne, où les Verts pourraient revenir dans les débats politiques et peser un peu plus lourd. La coalition de droite au pouvoir en a besoin pour remporter des élections en Bavière ce week-end. Un schisme très politique secoue l'église orthodoxe en ce moment. L'église ukrainienne n'est plus sous la tutelle de Moscou depuis hier, sur décision du patriarcat de Constantinople. C'est une première depuis 332 ans qui pourrait avoir de lourdes conséquences, vous le comprendrez. Au Brésil, Jair Bolsonaro refuse de participer à un débat télévisé. Le candidat d'extrême droite évoque sa santé fragile. Son candidat à la présidentielle, son adversaire à la présidentielle, propose de venir jusque dans l'hôpital. S'il le faut, nous rejoindrons notre correspondante. Et puis Stéphane Robert sera là après ce journal dans un gros quart d'heure pour le billet politique intitulé ce matin « De la manière de délivrer un message politique sans en avoir l'air ». Une bombe à retardement, un enjeu de santé publique sous-estimé. Les experts multiplient les alertes. L'amiante dans les établissements scolaires pourrait avoir des conséquences dramatiques. Aujourd'hui, l'ANDEVA, l'Association nationale de défense des victimes de l'amiante, organise une mobilisation à Paris pour alerter sur ce phénomène. Son mot d'ordre, pas d'amiante dans nos écoles. L'interdiction de cette fibre cancérogène date de 97 en France, mais 85% des établissements scolaires ont au moins un bâtiment construit avant cette date et un tiers des écoles primaires n'ont pas fait le diagnostic technique amiante. Des chiffres qui poussent des enseignants dans les rues. À Villeneuve-le-Roi, dans le Val-de-Marne, au sud de Paris, 40 enseignants sur 80 refusent de se rendre sur leur lieu de travail, vétuste. Ils font valoir leur droit de retrait depuis un incident, Mathieu Laurent.
Novembre dernier, un faux plafond s'effondre en salle informatique. Un fort taux d'amiante est alors relevé. L'expertise commandée par la région démontre que les flocages dits isolants contiennent bien tous de l'amiante, mais ne présentent aucun danger immédiat. Les enseignants passent alors à l'acte et demandent une enquête indépendante. 8 semaines de droit de retrait. En vain, aujourd'hui, un quart des salles de classe ne sont plus utilisées. Erten fréquente ce lycée depuis 2 ans. 2 ans à entendre parler d'amiante, alors il a fini par prendre quelques précautions.
J'ai anticipé, je commence à classer les coupures de presse, etc. Si dans quelques années je développe une maladie, au moins j'aurai les arguments pour dire que ça vient probablement d'ici.
Est-ce que vous êtes en solidarité avec le combat mené par les enseignants ?
Tout à fait, parce que les profs essayent aussi de protéger leur santé et la nôtre.
Quand le 1er octobre dernier, un incendie détruit cette fois des salles de sciences physiques, des poussières et des infiltrations alourdissent de nouveau l'atmosphère et les enseignants reprennent le combat.
Mais c'est sûr que on ne prend pas ce genre de décision à la légère. Ça fait un peu peur, on se sent peut-être aussi un peu coupable, voilà, qui perdent des jours de travail. Bien sûr, voilà, on espère reprendre le plus tôt possible, mais pas dans n'importe quelle condition. Est-ce que c'est dangereux ou pas, on n'est pas sûr. C'est justement cette incertitude aussi qui plane, qui est difficile à accepter.
Les experts qui, dans le passé, ont expertisé le lycée ont raconté des choses qui étaient fausses, alors malveillance ou incompétence, j'en sais rien. Les autorités en ont peut-être pas pris conscience et lorsque les professeurs se sont interrogés là-dessus, ont levé l'alerte, n'ont pas donné de réponse claire, sinon circuler, il n'y a rien à voir et si on passait à autre chose. Et ça, c'est épuisant, clairement.
Le CHSCT, l'établissement, soutient les enseignants en lutte. Esselés pendant des mois, ils viendront chercher aujourd'hui dans le cortège de l'ANDEVA légitimité et reconnaissance.
Des enseignants qui sont considérés par le rectorat de l'Académie de Créteil comme des grévistes depuis mardi. Le rectorat se fie en effet aux dernières analyses effectuées par la région. Elles estiment que la présence d'amiante dans l'établissement ne présente pas de mise en danger d'autrui. Ce n'est pas un départ du PS, c'est une scission. Voici la phrase retenue en une de l'entretien d'Emmanuel Morel par le quotidien Le Monde ce matin. L'eurodéputé s'y exprime et il annonce son départ du Parti Socialiste. Un Parti Socialiste qui ne correspond plus selon lui au socialisme. Mieux vaut partir que de se mentir à soi-même et aux autres, dit Emmanuel Morel, et qui pourrait se tourner vers Jean-Luc Mélenchon. Demain, c'est la sénatrice Marie-Noëlle Lienemann qui doit annoncer son départ du PS également, une autre figure historique. 10 000 millions d'électeurs du Land de Bavière sont appelés aux urnes en Allemagne ce dimanche pour renouveler leur parlement régional. La CSU, alliée de la CDU d'Angela Merkel, pourrait perdre à ce titre, pour la deuxième fois seulement en 56 ans, une région clé, une région riche et peuplée, qu'est la Bavière. Pour lutter contre la montée de l'Alternative für Deutschland, l'extrême droite dans cette région, eh bien les conservateurs pourraient former une coalition avec les Verts, avec les écologistes. Ils reviendraient ainsi sur le devant de la scène outre-Rhin, Ludovic Piétenu.
La dernière fois que les Verts allemands ont eu le vent en poupe, c'était il y a 7 ans, après Fukushima. La peur et l'émotion, doublées d'un credo antinucléaire constant chez eux, leur permettaient de mettre fin à 58 ans de règne de la CDU dans le land très conservateur du Bade-Württemberg aux portes de l'Alsace. Ils pourraient faire presque aussi bien dimanche chez le voisin bavarois, en fragilisant cette fois-ci la CSU, quasi omnipotente depuis 56 ans. Les Verts seraient-ils la plaie des conservateurs? Oui, car ils sont quasiment sur la même ligne. Cette formation longtemps étiqueté à gauche, s'est recentré. Un quart de ses nouveaux sympathisants votaient jusqu'à présent CDU. Pour cet électorat libéral conservateur plutôt déboussolé ces temps-ci en Allemagne, déçu par la grande coalition, les Verts à la direction rajeunie et unie deviennent une alternative crédible au même titre que le parti d'extrême droite AfD. Ce qui vaut en Bavière vaut pour tout le pays. Hier soir, un sondage national placé pour la première fois le parti écologiste comme deuxième force politique à 17% devant l'alternative pour l'Allemagne, 16 points, et les sociaux-démocrates à 15, même si les Verts sont souvent légèrement surestimés et sont meilleurs dans les sondages que dans les isoloirs, les conséquences d'un bon résultat ce week-end ne s'arrêteront pas aux limites de la seule Bavière. Ce serait une preuve de plus que le paysage politique allemand est en pleine transformation.
Les Verts grimpent donc dans les sondages quand la droite d'Angela Merkel s'effondre. Hier, la chancelière allemande a appelé cette droite allemande à en finir avec les querelles internes. Gloire à l'Ukraine, gloire à Jésus. Sur les réseaux sociaux ou devant une cathédrale à Kiev, hier soir, des Ukrainiens ont célébré la décision du patriarcat de Constantinople. Il a reconnu l'église d'Ukraine, une église indépendante, dit-il, de celle de Moscou. C'est une première depuis 332 ans. Le Kremlin y voit évidemment un schisme et une catastrophe. La hiérarchie orthodoxe, très proche de Vladimir Poutine, annonce même des conséquences à venir contre l'Ukraine. Le patriarcat de Moscou, qui comptait jusque-là le plus grand nombre de fidèles, perd donc son influence. C'est un tournant historique que certains avaient vu venir, comme l'historien et spécialiste de la civilisation russe, Yves Amand.
La guerre en Ukraine a complètement bouleversé les cartes. Les orthodoxes russes considèrent que l'Ukraine, c'est une partie d'eux-mêmes. Et voilà que ça bouleverse tout leur roman national. Le roman national russe commence en 988, avec le baptême de Kiev en 988. Et dès lors que est instituée, reconnue une église orthodoxe ukrainienne, le patriarcat de Moscou se retrouve rajeuni de plusieurs siècles. Vous imaginez ce que ça représente dans la conscience historique russe. Est-ce que le patriarcat de Moscou aura la sagesse d'accepter ce fait sans adopter des réactions de rejet violentes, rejet d'un phénomène inéluctable.
L'historien Yves Amand. Autre défaite russe dans l'espace cette fois. Un moteur de la fusée Soyouz a eu une défaillance hier, obligeant ses deux occupants à atterrir en urgence dans une plaine du Kazakhstan. La Russie a ouvert une enquête pénale pour découvrir s'il y a eu des violations des règles de sécurité. À 8h09 sur France Culture, rejoignons le Brésil, où l'ambiance s'est passablement détériorée depuis le premier tour de la présidentielle le week-end dernier. Les partisans du candidat d'extrême droite Jair Bolsonaro multiplient les violences, les agressions et ils diffusent de fausses informations. Jair Bolsonaro est toujours largement en tête dans les sondages. Son adversaire de gauche, Fernando Haddad, dit vouloir débattre avec lui à la télévision. Mais Anne Vigna, le favori, s'y refuse obstinément.
Jair Bolsonaro n'ira pas au débat présidentiel télévisé dans les prochaines semaines. Il a justifié à la radio son absence en ces termes.
Ceux qui pensent que je fuis les débats se trompent, je préserve ma santé, ça ne sert à rien de débattre et que je retourne ensuite à l'hôpital.
Son adversaire, Fernando Haddad, a réagi en proposant de les organiser à l'hôpital. Il veut confronter son adversaire qui ne cesse de l'attaquer sur les réseaux sociaux où Bolsonaro est très suivi et partage un nombre incalculable de fake news.
Les attitudes lâches sur les réseaux sociaux sont impossibles dans un débat face à face. C'est pour ça que je dis que j'irai sans problème débattre dans une infirmerie s'il le faut, parce qu'on doit discuter de beaucoup de choses.
Au lieu du débat, Jair Bolsonaro a réalisé un meeting ce jeudi à côté de chez lui et a participé à de nombreuses interviews. Dans l'une d'elles, il a menacé de ne se rendre à aucun débat.
N'est-ce pas important que vous alliez au débat ?
Je vais débattre avec Haddad ou le ventriloque de Lula. Les électeurs me connaissent, je n'ai pas débuté maintenant. Donc stratégiquement, je peux choisir de ne pas y aller sans aucun problème.
Cette décision est une mauvaise nouvelle pour son adversaire Fernando Haddad qui espérait gagner des voix lors de ces débats où Bolsonaro ne s'est jamais illustré. Même si ces débats sont une tradition au Brésil, ils ne sont pas obligatoires dans la loi électorale. Bolsonaro a 10 points d'avance sur son adversaire et préfère ne pas exposer son peu de connaissances sur la situation du pays et particulièrement sur l'économie.
Anne Vigna, depuis le Brésil pour France Culture. Nous évoquions hier le procès de Total pour corruption d'agents publics étrangers en lien avec des contrats gaziers et pétroliers conclus avec l'Iran à la fin des années 90. Eh bien, ce procès à Paris va s'achever dès aujourd'hui, faute d'accusés sur le banc. Ils sont tous décédés. Le groupe Total avait par ailleurs conclu un accord avec la justice américaine pour mettre fin aux poursuites engagées aux États-Unis. La force Barkhane au Sahel se dit disponible pour aider le Burkina Faso pour l'aider à enrayer la menace terroriste dans le pays. En 2 semaines, plus d'une vingtaine de membres des forces de sécurité ont été tués dans le nord et l'est du Burkina. L'opération Barkhane mobilise toujours, sachez-le, 4500 militaires français, 200 personnels du SSA, notamment le service de santé aux armées, à la fois soldats et sauveteurs. Et nous nous y intéresserons ce soir dans le grand reportage diffusé sur France Culture à partir de 17h. Un grand reportage diffusé depuis Bayeux à l'occasion du prix Bayeux-Calvados-Normandie des correspondants de guerre. Il a été réalisé par Nathalie Hernandez qui a notamment rencontré le médecin-chef Luc, présent lui au Mali. Il dirige le poste médical avancé de Gao. Et après l'Afghanistan et l'embuscade d'Ouzbine près de Kaboul qui avait fait 10 morts dans les rangs français, les procédures de sauvetage, explique-t-il, ont évolué.
Depuis l'embuscade d'Ouzbine, il y a eu des interrogations sur qu'est-ce qu'on aurait pu faire de mieux sur nos soldats, puisqu'on vivait sur un héritage de l'ex-Yougoslavie et même encore de la guerre du Golfe, donc quand même un héritage très ancien. Et surtout, on avait quand même l'armée anglaise et l'armée américaine qui avaient œuvré en Irak et en Afghanistan. On avait des billes pour améliorer. Donc il y a eu un très gros travail de réflexion. Dès 2009, le service de santé a vraiment mis en place une doctrine de la prise en charge du blessé de guerre qui s'est déclinée sous 3 niveaux. Pour faire simple, sur le champ de bataille, vous avez une partie non négligeable des blessés qui meurent dans la première heure. Il y a 80% qui meurent d'hémorragie, il y en a même 90%. Vous en avez 8% à peu près qui meurent de détresse respiratoire et vous avez 1 à 2% qui vont mourir d'obstruction des voies aériennes supérieures. Donc l'ensemble des mesures qui ont édicté le sauvetage au combat, qui était issu d'une pratique américaine, le T3C, c'était de dire on va cibler ces blessés-là parce que ceux-là ils sont sauvables. Et qui commence par sauver son camarade, hein, c'est pas moi, c'est d'abord le combattant. C'est que si on veut que l'équipe médicale arrive sur un blessé vivant, il ne faut pas qu'il soit mort dans ses 10 premières minutes, dans ses 30 premières minutes.
Voilà pour les explications du médecin-chef Luc, médecin au combat embedded avec Barkhane, embarqué avec Barkhane. C'est un grand reportage de Nathalie Hernandez, diffusé entre 17 et 18 heures ce soir. Il a été réalisé avec Annie Brault et sera suivi d'un débat avec un médecin-chef de la division milieu à la direction des médecines des forces et puis un médecin-chef du RAID. Des terrains de guerre donc, dangereux pour les soldats, des terrains détruits aussi et pillés, de la Libye à la Syrie en passant par l'Irak. À Paris en ce moment, des cités millénaires ressuscitent grâce à la 3D, à l'Institut du Monde Arabe. Des projections, grâce à elles, on peut se retrouver en plein milieu des ruines de Palmyre ou de Mossoul. Victor Vasseur, l'un des enjeux derrière tout cela est la transmission et l'étude de ce patrimoine.
Devant chaque projection en 3D, Elisabeth est restée bouche bée, bouleversée par les images. On survole les champs de ruines de Mossoul, on se faufile dans les souks d'Alep.
C'est très émouvant, j'avoue être complètement retournée, de le voir comme ça. Et puis en plus c'est un chef-d'œuvre de réalité. J'avoue que j'en ai la chair de poule, c'est très émouvant. On voit la réalité par la 3D, et puis en plus on voyait bien comment c'était avant et comment c'est maintenant. Et c'est vraiment, c'est fantastique.
Cette exposition à l'Institut du Monde Arabe est un voyage virtuel bien aidé par une start-up, Iconem. Par exemple, des drones ont filmé et photographié le temple de Belchamine à Palmyre, détruit par Daesh. Aurélie Clémenté-Ruiz est la commissaire de cette exposition.
L'exposition, pour moi, elle a deux enjeux. La première, c'est la prise de conscience. On a volontairement choisi une exposition où nous ne présentons pas d'œuvres, où nous sommes vraiment sur le choc des images à grande échelle, puisqu'on a favorisé des très très grandes projections qui montrent donc les quatre sites de l'exposition, à savoir Mossoul, Palmyre, Alep et Leptis Magna. Donc on a un choc visuel très très fort.
L'autre enjeu, c'est de conserver une trace de ces monuments pour les générations futures.
On se rend compte que ces 10 dernières années dans le monde arabe, il y a eu beaucoup plus de destruction que quasiment pendant un siècle. Enfin, c'est quasiment un travail d'urgence que de dire recensons ce patrimoine pour en garder une trace et voyons ensuite si ce patrimoine est touché, qu'est-ce que nous pouvons faire.
Ce que l'on peut faire, par exemple, avec ces images, c'est reconstruire un jour les villes réduites en gravats, comme Alep et Mossoul.
Et puis à Paris encore, hasard de l'actualité, notons que l'œuvre controversée de Jeff Koons, le bouquet de tulipes, sera finalement installée dans les jardins du Petit Palais. C'est ce qu'annonce ce matin Christophe Girard, adjoint à la mairie de Paris, chargé de la culture. Cette œuvre monumentale a été offerte par l'artiste après les attentats de 2015 et 2016, mais les critiques se sont multipliées sur son coût, notamment 3,5 millions d'euros. Cette œuvre sera financée par des fonds privés, a assuré ce matin Christophe Girard. La météo très rapidement. Pour ce vendredi, entre grisaille et brouillard au nord ce matin, mais un grand soleil partout dans l'après-midi et des températures douces, 18 à 20 degrés au nord ce matin en moyenne, 20 à 27 cet après-midi.